Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Nous étions quittés la dernière fois en évoquant une idée centrale de l'œuvre de Vico, qui est celle d'un cours cyclique de l'histoire des institutions, qui voit les sociétés humaines passer de la barbarie à la civilisation avant de retourner à la barbarie. C'est la théorie des corsi et ricorsi. Et je vous avais lu la description saisissante de cet enchaînement qui se trouve à la fin de son grand œuvre, La science nouvelle relative à la nature commune des nations, où il décrivait l'état d'une société où chacun se replie sur son intérêt propre, perdant tout intérêt à la chose publique. C'est ce que Vico nomme la grande maladie des cités et qui plonge leurs habitants dans ce qu'il appelle la barbarie de la réflexion. Alors, c'est une notion qu'il distingue de la barbarie des sens. La barbarie des sens étant l'état primitif qui avait précédé l'établissement de la civilisation parmi les hommes. Arrivé à ce point, c'est-à-dire à ce point où une société sombre dans la barbarie de la réflexion, le retour à la barbarie première, celle de la violence des premiers temps, est aussi un ultime recours et qui est inévitable. Voilà la façon dont Vico le décrit. Je cite « Pour toutes ces raisons, la Providence fait qu'avec leurs factions obstinées et leur guerre civile violente, ces peuples changent leurs cités en forêts et les forêts en tanières d'hommes. Ainsi vont se rouiller pendant de longs siècles de barbarie les viles subtilités des intelligences malicieuses qui avaient fait d'eux des bêtes rendues encore plus cruelles par la barbarie de la réflexion que n'avait été cruelle la première barbarie des sens. En effet, cette dernière manifestait une férocité généreuse contre laquelle on pouvait se défendre en prenant la fuite ou en se protégeant, tandis que l'autre, la barbarie de la réflexion, avec une férocité lâche et en se cachant derrière des flatteries et des embrassements, complote contre la vie et la fortune des amis confiants. Fin de citation. Ce retour à la barbarie des sens n'est évidemment pas une partie de plaisir, mais un temps de violence et de désolation. Et cette expérience des enjeux fondamentaux de la vie humaine conduit les survivants à retrouver le sens des réalités et à renouer avec les vertus premières qui sont la condition de la vie de la cité, c'est-à-dire de la civilisation. Et je le cite une dernière fois, « Les hommes, écrit Vico, en petit nombre, qui restent à la fin de ces périodes de violence, se trouvent alors dans l'abondance des choses nécessaires à la vie, et ils deviennent naturellement sociables. Grâce au retour de la simplicité primitive du premier monde des peuples, ils sont religieux, véridiques et fidèles, et ainsi reviennent parmi eux la piété, la fidélité, la vérité, qui sont les fondements naturels de la justice. » Fin de citation. Vous aurez noté, bien sûr, que les vertus ainsi retrouvées grâce à l'expérience de la barbarie primitive sont les vertus civiques, décrites déjà par Cicéron, et qui font cortège à la justice dans le rêve de Placentin que nous avons évoqué, « Religio pietas gratiam veritas ». Du point de vue mondial que nous essayons d'adopter dans notre analyse de la justice sociale, cette théorie des ricorsi de Vico peut être rapprochée du mythe de la recréation cyclique du monde dans la cosmogonie hindoue. Vous en trouverez une merveilleuse analyse dans le livre d'Heinrich Zimmer, traduit en français sous le titre « Maya » ou « Le rêve cosmique » dans la mythologie hindoue qui est parue chez Fayard en 1987. Selon ce mythe, le dieu Vishnu, le créateur du monde, aurait révélé le secret de cette création à Manu, le premier homme. C'est l'équivalent indien de notre Adam. Manu est aussi le premier législateur de l'humanité, puisque c'est lui l'auteur des célèbres lois de Manu, le Manava Dharma Sastra, littéralement le livre de la loi de Manu, qui est l'ouvrage juridique de base de la civilisation indienne, qui vient d'être réédité d'ailleurs par les éditions Les Belles Lettres. Pour une étude approfondie de ce grand classique, je vous renvoie à l'ouvrage également classique de Robert Linga sur les sources du droit dans le système traditionnel de l'Inde, qui est vraiment l'ouvrage de référence sur le droit dans l'Inde ancienne. Alors, quel est ce mythe ? Au commencement des temps, ou plutôt, vous allez le voir, au recommencement du monde, nous sommes dans la nuit cosmique. Le dieu Vishnu dort d'un sommeil profond dans l'océan immense. Il va sortir de ce sommeil pour créer un monde parfait. Mais ce monde parfait qu'il a conçu en lui va se dégrader progressivement tout au long de ce qui est nommé une journée cosmique, en passant par quatre étapes successives appelées les yugas. Cette journée cosmique est fort longue puisqu'elle dure l'équivalent de 4,32 millions de nos années. Et pendant cette très longue période se succèdent donc quatre âges qui s'appellent les yugas. Et ces quatre âges sont les suivants. Il y a d'abord un âge d'or, ou Krita Yuga, qui dure 1,728 millions. Ensuite, un âge d'argent, le Treta Yuga, qui dure 1,296 millions d'années, c'est-à-dire les trois quarts de l'âge précédent. Ensuite, un âge de bronze, le Vapara Yuga, qui dure lui aussi les deux tiers du précédent, c'est-à-dire 0,864 millions d'années. Et enfin, le dernier âge, c'est l'âge de fer, le Kali Yuga, qui dure 432 000 ans, c'est-à-dire la moitié du précédent. Et cette histoire de l'ordre du monde peut être symbolisée par une vache sacrée. Durant l'âge d'or, cette vache repose fermement sur ses quatre pattes. Les hommes sont bons, chacun s'acquitte scrupuleusement des devoirs correspondant à son varna. Et les forces négatives, nous pourrions dire en termes modernes le facteur d'entropie, ne possèdent alors que le quart de sa force. Et la situation se dégrade ensuite successivement dans les âges suivants. Le monde ne repose plus que sur trois pattes dans l'âge d'argent, puis sur deux dans l'âge de bronze, et enfin une seule dans le Kali Yuga, l'âge de fer. Le poids des forces destructrices s'accroît symétriquement et le Kali Yuga correspond à la période actuelle, celle où nous vivons aujourd'hui. Et voici comment Heinrich Zimmer rapporte la présentation de cet âge dans les textes classiques. Pardon, je le cite. Dans le dernier âge du monde, l'ordre divin n'exerce plus sur la conduite des hommes que le quart de son pouvoir initial. Il ne se trouve plus personne chez qui prédominerait la bonté et la perfection pure. Plus aucun sage ni aucun homme qui dise la vérité et tienne parole. Les hommes qui étaient jadis attachés à la puissance divine deviennent ses négateurs. L'égocentrisme les domine. Les liens de l'affection et de l'amour se relâchent. Le mode de vie, supposé pur de tous les brahmanes, ressemble à la façon de se conduire des parias les plus vils. Les étapes naturelles de la vie s'inversent. Les vieillards se comportent comme s'ils étaient jeunes. Les jeunes gens agissent comme s'ils étaient vieux. Personne n'atteint plus la véritable maturité. Il n'y a plus d'aînés auréolés de la sagesse des ans. Comme vous le voyez, cette description est très voisine de celle de la maladie civile dépeinte par Vico. Et le remède appliqué par Vishnu est aussi extrême que l'ultime recours de la Providence chez Vico. Je cite « Alors, Vishnu voit que le corps des êtres et celui de l'univers lui-même sont mûrs pour la dissolution. Et le Dieu Tout-Puissant sent croître en lui le désir d'anéantir l'univers entier pour le résorber en lui-même, tout comme il l'avait jadis projeté en lui-même. » Cette dissolution passe par des guerres, des massacres et diverses catastrophes écologiques décrites dans ces textes classiques, avant de se conclure par un déluge qui engloutit le monde sous les eaux. Et alors ? Alors Vishnu se rendort, le temps d'une longue nuit cosmique qui, dont la durée est égale à celle du jour, soit 4,32 millions d'années. Mais rassurez-vous, ou plutôt tremblez, il se réveillera et se remettra à concevoir la possibilité, non pas d'une île comme dans le roman, mais d'un monde parfait, et recommencera alors un nouveau cycle de création, de dégradation et de destruction. Cette conception cyclique du temps est, vous le voyez, bien différente de la conception linéaire que partagent toutes les religions du livre, avec un temps qui a un début et une fin. Là, il y a une répétition d'un cycle. Dès lors qu'on essaie de comprendre les représentations de la justice sociale dans le contexte de la globalisation, il est important de ne pas méconnaître les cosmogonies qui ont porté les grandes civilisations. Aujourd'hui, comme me l'a fait un jour remarquer le grand écrivain indien Anantamurti, les classes populaires indiennes sont encore souvent illettrées, mais elles n'en sont pas moins cultivées. Elles continuent d'interpréter leur expérience du monde au moyen de cette cosmogonie. Et elles y trouvent une explication beaucoup plus satisfaisante des catastrophes du monde présent que celle offerte par la théorie économique, une explication beaucoup plus satisfaisante à la montée de la cupidité, à la corruption, à la violence urbaine, ainsi qu'à la répétition des désastres écologiques. C'est le Kali, vous diront-ils, c'est-à-dire un temps historique dominé par l'injustice et condamné comme tel à disparaître pour que l'ordre du monde puisse être refondé sur des bases solides. Vico, au fond, ne dit pas autre chose. Lui qui voit les fondements naturels de la justice ressurgir des décombres de la barbarie. Eh bien, ce long détour éclaire l'expérience de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt les leçons qui furent tirées alors de l'expérience bien concrète des massacres déments. Et cette expérience avait entraîné une refondation de ce genre, une refondation, une tentative de refondation d'un ordre mondial fondé sur la justice. Le lien entre catastrophe et sursaut dogmatique est du reste explicite dans les trois premiers considérants de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de l'homme de 1948. Que nous allons lire ensemble. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc vous voyez, premier considérant, il y a un principe fondateur, pas un principe fondamental, un principe fondateur de ce nouvel ordre, c'est la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille, donc de l'égale dignité des êtres humains. Deuxième considérant, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Donc, vous retrouvez dans le deuxième considérant la notion de l'expérience de la barbarie, et vous y avez aussi une allusion extrêmement claire au discours des quatre libertés que prononcé par Roosevelt en 1941, avant l'entrée en guerre des États-Unis. La liberté de croire, la liberté d'expression, la libération du besoin. Et le dernier considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, la version anglaise dit « by the rule of law », pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Fin de citation. On peut légitimement faire l'hypothèse qu'une certaine barbarie de la réflexion est de retour qui fait sauter les digues ainsi édifié après-guerre. Le triomphe de l'anarcho-capitalisme et l'instauration d'un marché total qui abolit ou neutralise tout régime de droit susceptible de limiter l'exploitation des ressources naturelles, humaines ou financières explique pourquoi l'horizon de la catastrophe a aujourd'hui supplanté celui de la révolution dans l'imaginaire collectif. C'est donc l'expérience de la catastrophe qui a conduit en 1919 à la création de l'OIT. Et donc, nous allons nous attarder un peu sur ce moment très important de la création de l'OIT. Elle a participé d'un premier sursaut dogmatique, d'une première tentative d'établir un régime de droit susceptible d'endiguer la surexploitation des êtres humains à l'échelle de la planète. Sa constitution fut évidemment le fruit d'un compromis qui allait être lourd de conséquences pour l'avenir du droit social international. Je suppose connu de vous l'économie générale de cette constitution, notamment l'articulation des fonctions de ces trois organes essentiels de l'OIT, que sont d'abord la Conférence internationale du travail, qui est une sorte de parlement mondial du travail composé pour moitié par des représentants des États membres, qui sont aujourd'hui 185, l'autre moitié étant composée à égalité des représentants des employeurs et des syndicats de ces pays. C'est ce qui fait la grande originalité toujours existante de l'OIT, c'est de ne pas être simplement une institution représentative des États, mais aussi de ce que de groupements organisés de la société. Les autres organisations pourraient en tirer profit dans le contexte où, à l'évidence, le système des institutions internationales contemporaines mérite d'être repensé. Donc le premier organe, c'est la Conférence internationale du travail. Le deuxième, c'est le Conseil d'administration de l'OIT, qui est un organe qui émane de la Conférence, qui est lui aussi tripartite, et qui comprend aujourd'hui 56 membres élus tous les 3 ans. Et c'est ce Conseil d'administration qui élit à son tour le directeur général. Et le troisième organe, c'est le Bureau international du travail, qui est l'administration de l'OIT et qui possède des bureaux régionaux répartis tout autour du monde. Nous avons la chance à Nantes, à Paris, nous avons la chance qu'il y ait un représentant de l'OIT en France encore à ce jour. Je retiendrai seulement ici 2 éléments du compromis réalisé pour adopter cette constitution dans le cadre des négociations du traité de Versailles. 2 éléments qui permettent de comprendre la situation actuelle, à vrai dire pas très réjouissante, de cette institution. Le premier porte sur les pouvoir de la conférence. Ce point crucial donnait lieu, vous vous en doutez, à d'âpres négociations. Les délégations italiennes et françaises, je cite les Italiens et les Français parce que dans la négociation du traité de Versailles, il y avait le quatuor Italie, France, États-Unis, Angleterre. Les délégations italiennes et françaises proposaient que les conventions internationales du travail qui auraient été adoptées à une majorité qualifiée des deux tiers des membres de la conférence soient exécutoires dans tous les États membres une année après cette adoption. Cette solution, qui faisait de la conférence un véritable parlement mondial du travail, aurait signifié un transfert de souveraineté et ne fit pas consensus. Moins audacieuse, mais sans doute plus réaliste, la proposition britannique consistait à instaurer un droit de veto aux parlements nationaux, les conventions devenant exécutoires en l'absence de l'exercice d'un tel droit de veto dans l'année suivant leur adoption par la conférence. Dans ce système, les conventions s'appliquaient immédiatement, sauf veto exercé par le Parlement national. Les États-Unis, qui au reste ne vont pas ratifier le traité de Versailles et ne seront pas membres de l'OIT dans un premier temps, s'opposaient pendant ces négociations vigoureusement à toute formule susceptible d'empiéter sur les attributions du Congrès américain, de la Cour suprême ou des États fédérés. Nous retrouvons ici un trait caractéristique de ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain, c'est-à-dire une répugnance à se soumettre à toute espèce de normes internationales, ce qui est typique évidemment des positions impériales dans l'histoire longue. Ils préconisèrent de reconnaître à la conférence un simple pouvoir de recommandation assorti d'une obligation faite aux États de les soumettre à leurs instances législatives et de faire rapport sur la suite qui leur serait donnée. Alors, vous connaissez les termes du compromis qui fut finalement trouvé. La conférence peut adopter à la majorité des deux tiers deux types d'instruments, les conventions et les recommandations, que les États membres doivent soumettre aux autorités nationales compétentes, qui décident souverainement des suites à leur donner. S'agissant des conventions internationales du travail, ces autorités peuvent décider ou non de leur ratification. Si elles les ratifient, cela leur confère la même valeur qu'un traité international. S'agissant des recommandations, les États membres sont libres d'en tenir compte ou non pour modifier leur droit interne, n'étant tenu alors vis-à-vis du BIT qu'une simple obligation d'information. Donc dans le premier cas, on va avoir des normes internationales du travail à effet obligatoire, mais obligatoire seulement dans les pays qui ont ratifié les conventions, alors que dans le second cas, celui des recommandations, c'est une impulsion pour la transformation des législations nationales. Le résultat de ce compromis est que les normes internationales du travail élaborées par l'OIT font l'objet de ce qu'on peut appeler un self-service normatif, chaque État demeurant libre du choix de celle auquel il se soumettra et pouvant n'en ratifier qu'un tout petit nombre, comme c'est le cas par exemple des États-Unis. Sur les 190 conventions adoptées de 1919 à 2023, les États-Unis en ont ratifié 14, dont 10 sont en vigueur. La Chine, 28, dont 22 sont en vigueur. Le Mali, 34, dont 32 sont en vigueur. Le Royaume-Uni, 89. L'Allemagne, 87. La France, 129, dont 80 sont en vigueur. Donc, l'OIT est dépourvue de bâtons, elle n'a pas de moyens de pression sur les États, mais elle est aussi dépourvue de carottes pour pousser les États à ratifier ces conventions. Et elle ne peut donc compter, parce que, on va y revenir sur ce point, un État en ratifiant s'impose des obligations à lui-même que d'autres éventuellement ne s'imposeront pas. sans pouvoir en espérer autre chose qu'une reconnaissance morale. Et donc l'OIT ne peut compter que sur son autorité morale et son pouvoir de persuasion. Le seul avantage de la ratification pour un pays donné est en effet d'améliorer son image sociale internationale. Mais cet avantage n'en est plus vraiment un dès lors que l'idéologie ultralibérale est devenue hégémonique. Cette idéologie est viscéralement hostile aux droits économiques et sociaux en général et aux normes de l'OIT en particulier, ainsi que l'exprime avec sa franchise habituelle Friedrich Hayek, l'un des pères des théories néolibérales. Voilà ce qu'il écrit. Le document tout entier, il s'agit de la Déclaration universelle de 1948, est rédigé dans le jargon propre à la mentalité organisationnelle que l'on s'attend à trouver dans les déclarations des dirigeants syndicalistes ou de l'Organisation internationale du travail. Ce jargon n'a rien qui s'accorde avec les principes sur lesquels repose l'ordre de la grande société. Fin de citation. L'ordre de la grande société, c'est l'ordre spontané d'un marché devenu total. Aujourd'hui, l'abaissement du coût du travail est partout présenté comme un avantage comparatif qu'il faut préserver ou dont il faut se doter pour accroître sa compétitivité. C'est ainsi que l'on a vu le président du MEDEF réclamer au gouvernement français la dénonciation de la Convention 158 sur le licenciement. Ce président était M. Pierre Gattaz et cette déclaration date de 2014. Les chefs d'entreprise, déclaraient-ils, quand ils peuvent embaucher, craignent de se retrouver devant les prud'hommes s'ils rompent le contrat, c'est un des principaux freins à l'embauche. Pour lever ce risque juridique, il faut sortir de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail qui fait peser une lourde contrainte en matière de motifs de licenciement. Tant qu'on aura cette contrainte supranationale, peu importe le contrat, le fond du problème ne sera pas traité. Fin de citation. Donc le pays qui ratifie une convention OIT n'en tire aucun avantage dans ses relations avec les autres et s'expose en revanche à ce que l'un des nos grands juristes internationalistes spécialistes des normes internationales du travail, Francis Maupin, a nommé une double peine. Double peine parce que d'une part, il devra mettre sa législation ou la maintenir en conformité avec la norme internationale et se priver ainsi de l'avantage compétitif supposé d'une main-d'œuvre à bas coût. Ça, c'est la première peine. Et d'autre part, à partir du moment où il aura ratifié cette convention, il va s'exposer à des recours en cas d'infraction à ces normes. Il va s'exposer à des processus de contrôle auxquels participeront des pays qui, eux, n'ont pas ratifié ces normes. On comprend dès lors que l'effacement des frontières du commerce engagé depuis les accords de Marrakech et la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994 ait plongé l'OIT dans une crise profonde. Après l'échec du projet d'insertion de clauses sociales dans les accords du commerce, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, l'OIT a cherché de sortir de cette crise en usant de deux méthodes complémentaires. Alors, la première méthode a consisté à hiérarchiser ces conventions pour inciter les États à ratifier celles qu'elle a dès lors qualifiées de fondamentales ou de prioritaires. Elle avait initialement identifié 8 conventions fondamentales qui, en 2024, sont passées au nombre de 11. Ces conventions concernent la liberté syndicale, la négociation collective, l'interdiction du travail forcé, l'âge minimum du travail, les pires formes de travail des enfants, l'égalité de rémunération, la discrimination, et, ce qui a été ajouté plus récemment, la santé et la sécurité, qui était un thème étrangement absent, alors que ça a toujours été un thème central en droit du travail. Notez la présence des conventions 87 et 98, dont l'interprétation fait aujourd'hui l'objet d'une dispute sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, la 87 sur la liberté syndicale et la 98 sur la négociation collective. Alors, à ces conventions fondamentales ont été ajoutées des conventions dites de gouvernance qui sont jugées prioritaires pour assurer la mise en œuvre des droits et principes fondamentaux. Ces conventions de gouvernance sont au nombre de 4, la 81 sur l'inspection du travail, la 122 sur la politique de l'emploi, la 129 également sur l'inspection du travail mais en agriculture, et enfin la 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes. Dans l'ensemble, cette incitation à ratifier les conventions fondamentales a été entendue pour des raisons qui tiennent à l'autorité morale de l'OIT, mais plus encore au fait que la référence à ces conventions est de plus en plus fréquente dans les accords bilatéraux du commerce, ainsi que nous aurons l'occasion d'y revenir dans un chapitre ultérieur. Voici, par exemple, le tableau qui s'affiche et qui donne l'état actuel des ratifications des conventions fondamentales. Je ne m'y arrête pas particulièrement. Vous trouvez ces tableaux à jour sur le site de l'Organisation internationale du travail. Les chiffres qu'on peut y lire sont apparemment satisfaisants. Ils ne doivent toutefois pas faire illusion. Par exemple, ni le Brésil, ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis n'ont ratifié la Convention 87 sur la liberté syndicale. À supposer même que cette convention soit appliquée dans les pays qui l'ont ratifiée, ce qui est évidemment loin d'être le cas, elle ne couvre même pas la moitié de la population mondiale. En termes de ratification, les États, qui sont les derniers de la classe, avec le sultanat du Brunei, n'ont ratifié que 2 des 8 conventions fondamentales, celle sur le travail forcé et celle sur les pires formes de travail des enfants. Donc, vous voyez, cette première méthode de hiérarchisation des conventions n'a pas eu de résultat particulièrement flamboyant. La seconde méthode complémentaire de ce repliement sur un tout petit nombre de conventions fondamentales a consisté à recourir au droit mou, ce qu'on appelle la « soft law ». Ce recours a pris la forme de 2 déclarations sans effet juridique contraignant. La première, c'est la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, et la seconde, la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, qui date de 2008. Alors, le contexte d'adoption de la première, celle de 1998, c'est celui du refus par l'Organisation mondiale du commerce, qui venait d'être créée, d'envisager l'insertion de clauses sociales dans les accords de commerce. Ce refus a été décidé lors du sommet de Singapour de 1996. Qu'est-ce que ça voulait dire? Si vous voulez, la logique de la clause sociale, comme celle de la clause environnementale, consisterait à dire « nous ouvrons nos frontières à la circulation des capitaux et des marchandises, mais nous ouvrons ces frontières que dans la mesure où nos partenaires respectent des normes minimales en matière sociale ou environnementale. Faute de quoi, évidemment, nous nous exposons à un dumping social ou environnemental. Si vous autorisez l'entrée sur le territoire de produits agricoles fabriqués dans des conditions qui utilisent des produits qui sont interdits pour les agriculteurs en France, évidemment, on peut dire que cette concurrence n'est pas loyale, et de même si vous ouvrez la concurrence à des produits qui sont fabriqués dans des pays où il n'y a aucun salaire minimum, pas de sécurité ni de santé au travail, etc. Donc où le coût de la ressource humaine est très faible. Donc la question a été discutée à Singapour dans le cadre de l'OMC, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des possibilités d'insérer des clauses qui subordonnent l'ouverture des frontières à un certain nombre de normes sociales, par exemple le respect des conventions fondamentales de l'OIT. Bon, cela avait été refusé et l'OMC avait botté en touche, si je puis dire, en disant « De toute façon, tout ce qui concerne le travail, allez voir l'OIT, c'est à eux de se débrouiller. » Donc, la balle revenant dans l'OIT, c'est ainsi qu'a été élaborée la déclaration de 1998. Et la conférence internationale du travail s'accorda sur le texte d'une déclaration sur les principes et droits fondamentaux du travail, dont je vous donne ici les principaux éléments. Je ne vous lis pas la totalité de ce qui s'affiche, mais simplement les extraits les plus importants du début de cette déclaration. Donc la Conférence internationale du travail, premièrement, rappelle qu'en adhérant librement à l'OIT, l'ensemble de ses membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie. Et ces principes et droits ont été exprimés et développés dans des conventions reconnues comme fondamentales. Vous voyez le lien avec les conventions fondamentales dont nous venons de parler. Deuxièmement, la conférence déclare que l'ensemble des membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'organisation, de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi et conformément à la Constitution les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir, et là il y a une liste de 4 principes, la liberté d'association et la négociation collective, l'élimination du travail forcé, l'abolition du travail des enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Ce rappel purement platonique n'est assorti d'aucune sanction, mais seulement de ce qui est appelé un mécanisme de suivi promotionnel, consistant à demander aux États n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales de faire rapport et de les aider à améliorer leur performance sociale en ces domaines. On voit ici, c'est ce qui c'est, la pente vers un rôle pour l'OIT d'agence de soutien, d'agence de moyens, plutôt que d'instance fixant des règles du jeu social à l'échelle du monde. Et cette pente, elle n'a cessé de la dévaler depuis. Plus grave au plan des principes, cette déclaration de 1998 se termine par une adhésion sans réserve à la thèse ricardienne de l'avantage compétitif que représenterait un bas coût de la manœuvre. Je vous lis ce point, c'est le point 5. La Conférence internationale du travail, je cite, souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareille fin. En outre, l'avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra en aucune façon être mis en cause du fait de la présente déclaration et de son suivi. C'est pratiquement une lettre de suicide à mes yeux pour l'OIT que de déclarer de telles choses, car on ne saurait contredire plus clairement le préambule de la Constitution de l'OIT, au terme duquel, je vous le rappelle, je cite, « la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain, fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. » Fin de citation. L'impression désastreuse causée par cette soumission au règne sans partage du libre-échange a conduit, du reste, la conférence a nuancé son propos dans la seconde déclaration qu'elle a adoptée 10 ans plus tard, la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée en 2008. Mais cette dernière, tout en tentant de rattraper les manquements et les bévues de la déclaration de 1998, ne fait plus peser d'obligations promotionnelles qu'à la charge du BIT, et plus des États. Elle est le bras désarmé de l'agenda du travail décent qu'en 1999, le directeur général de l'époque, Juan Somavia, avait placé au cœur de l'action du BIT. La mise en œuvre de cet agenda est déclinée dans la déclaration de 2008 autour de 4 objectifs stratégiques d'égale importance. Le premier, c'est de promouvoir l'emploi en créant un environnement institutionnel et économique durable. Cet objectif est décliné aux 3 niveaux. Premièrement, des individus qui doivent, je cite, pouvoir acquérir et actualiser les capacités et les compétences nécessaires leur permettant de travailler de manière productive pour leur épanouissement personnel et le bien-être collectif. Là, vous voyez l'influence des théories d'Amartya Sen sur les capabilities. Ensuite, au niveau des entreprises, publiques ou privées, qui doivent être durables afin de favoriser la croissance et de créer davantage de possibilités, de perspectives d'emploi et de revenus pour tous. Et le 3e niveau, celui des sociétés dans leur ensemble, qui doivent pouvoir réaliser leurs objectifs de développement économique et de progrès social. On retrouve ici les 3 échelons d'une politique du travail, largement entendue et s'étendant à l'entreprise et au travail des nations et pas simplement à l'emploi salarié individuel. Le 2e objectif stratégique de la déclaration de 2008, c'est de prendre et renforcer des mesures de protection sociale en étendant la sécurité sociale à tous, en garantissant des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs. Alors ça, ce sont des questions dont l'absence avait été tout à fait remarquée et tout à fait frappante dans la déclaration de 1998, la santé et la sécurité. Et enfin, en assurant à ces derniers une participation équitable aux fruits du programme en matière de salaire, de durée de travail et de salaire minimum. 3e objectif, promouvoir le dialogue social et le tripartisme en tant que méthode les plus aptes à réaliser l'agenda de travail décent. Et 4e et dernier objectif, respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux en s'appuyant sur la liberté syndicale et la négociation collective. Il est noté, à propos de ce 4e objectif, je cite, que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes. Alors, fin de citation. Cette dernière formule vise à corriger l'effet désastreux que je viens d'évoquer qui avait été produit par le paragraphe 5 de la déclaration de 1998. Mais si, d'une main, la déclaration de 2008 exclut la recherche de l'avantage comparatif du domaine des droits des travailleurs, de l'autre, elle soumet la légitimité des normes du travail à l'empire du libre-échange. Donc, voilà les 2 grands textes qu'est parvenu à élaborer l'OIT dans le contexte de ces années dites de fin de l'histoire et d'expansion du néolibéralisme suite à la création, en dehors du système des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce par les accords de Marrakech. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le contrepoids aux effets de dumping social entraînés par l'effacement des frontières du commerce, ce contrepoids était bien faible. En revanche, du point de vue juridique, il faut noter une idée
très intéressante, qui d'ailleurs était l'idée de base, je crois, des juristes qui ont contribué à ces déclarations, qui consiste à adosser la mission normative de l'OIT sur sa constitution et à lui rendre ainsi une universalité qui, faute de ratification suffisante, fait défaut à la plupart de ces conventions internationales. Vous voyez, l'idée, c'est que presque tous les États du monde sont membres de l'OIT, et étant membres, ils sont tenus de respecter sa constitution. Donc, on cherche à ancrer dans la constitution des obligations juridiques qui pourraient s'imposer directement aux différents États, peu important qu'ils aient ou non ratifié les conventions mettant en œuvre les principes inscrits dans la Constitution. C'est le cas, par exemple, de la liberté syndicale. Elle est affirmée avec beaucoup de force dans la Constitution de l'OIT, d'autant plus que c'est elle qui justifie le tripartisme qui caractérise cette institution. Elle a été déclinée dans des conventions internationales, mais même les États qui n'ont pas ratifié ces conventions sont tenus, de par leur appartenance à l'OIT, au respect de la liberté syndicale. C'est un point très important, nous y reviendrons, s'agissant du système de sanctions, parce que cela veut dire que les atteintes à la liberté syndicale peuvent être poursuivies nonobstant la ratification ou la non-ratification des conventions spécialisées en ce domaine. Alors voilà à peu près ce qu'a été la stratégie de l'OIT donc, dans le contexte de déploiement de l'enthousiasme néolibéral de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. On peut faire plusieurs remarques à ce sujet. D'abord, ce repliement sur les droits fondamentaux n'est pas sans inconvénient. Il se traduit par une restriction si drastique des ambitions de l'OIT qu'elle conduit à une métamorphose de l'idée de justice sociale. Celle-ci n'est plus envisagée comme un principe d'organisation de la société devant conduire à étendre la citoyenneté à la sphère économique et sociale, mais plutôt comme l'attribution aux individus d'un viatique minimal devant leur permettre de faire face à la compétition généralisée. Donc, la justice, ce n'est plus une justice dans la répartition du travail et de ses fruits, mais ça consiste à éviter que les plus faibles ne meurent de faim. On repasse d'une idée de solidarité à une idée, au fond, de charité. Et le moteur de l'évolution des législations devrait être cette compétition généralisée, ainsi qu'a eu l'occasion de le dire dans des termes particulièrement éclairants le Premier ministre britannique en 2012 dans un discours au Congrès du Parti conservateur, qui a décrit cette compétition générale issue de la génération de libre-échange comme un « global race », une course globale. Je cite M. Cameron, « La vérité est que nous sommes aujourd'hui engagés dans une course globale et pour des pays comme le nôtre, c'est-à-dire le Royaume-Uni, cela sonne l'heure des comptes, couler ou nager, agir ou décliner. Ces temps sont des temps difficiles, nous sommes testés. Comment en sortir gagnant? Ce n'est pas compliqué, il faut travailler dur. » Alors, voilà le Global Race comme horizon de vie pour l'humanité. Vous voyez qu'on est loin des promesses de justice sociale et de respect des droits qui avaient été le fait du sursaut normatif de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et au fond, ce global race n'est pas autre chose que ce que Jünger, après la Première Guerre mondiale, a nommé la totale Mobilmachung, c'est-à-dire la mobilisation totale. Et Jünger, dans son livre Le Travailleur, qui tirait les leçons, au fond, de l'expérience de la Première Guerre mondiale, sa thèse consiste à dire, eh bien, aujourd'hui, les modes d'organisation, les modes de gouvernement des hommes et les façons de leur faire travailler sont la transposition en temps de paix de ce qui a été expérimenté sur le champ de bataille pendant la guerre. Et voilà comment il décrit cette nouvelle situation faite aux êtres humains, je cite, « Le propre de notre situation consiste en ceci, que la contrainte du record règle nos mouvements et que le critère de performance minimale qu'on réclame de nous accroît l'ampleur de ces exigences de façon ininterrompue. Ce fait interdit totalement que la vie puisse, en quelque domaine que ce soit, se stabiliser selon un ordre sûr et indiscutable. Le mode de vie ressemble plutôt à une course mortelle où il faut bander toutes ses énergies pour ne pas rester sur le carreau. » Fin de citation. On retrouve dans ce texte, enfin, que je trouve très éclairant, la description de ce que sont devenues, d'une certaine façon, les techniques de management avec, vous y retrouvez ce vocabulaire de la performance et des progrès sans cesse de la performance, l'appel à une mobilité totale qui fait qu'il n'y a plus aucun ordre sûr pour personne. Donc le repliement de l'OIT sur les droits fondamentaux énumérés dans la déclaration de 1998 réduit la justice sociale à l'attribution d'un viatique, d'une trousse de survie qui doit être reconnue aux individus engagés dans cette course mortelle et non plus dans le projet de l'établissement d'une juste répartition du travail et des richesses à l'échelle du globe. Donc ça, c'est la première critique qu'on peut faire à l'évolution du droit international du travail dans le contexte contemporain. En second lieu, il conviendrait, pour que ce repliement sur des normes fondamentales soit de nature à rendre à l'OIT son crédit aux yeux des États, que cette organisation dispose de moyens de pression ou d'attraction autres que purement moraux. Or, depuis l'origine, en fait depuis l'échec du projet de faire de la Cour internationale du travail un véritable parlement social international habilité à adopter des conventions exécutoire, l'OIT n'a de force que de persuasion et celle-ci dépend hautement de considérations géopolitiques. Tant que existait la pression, que je n'ose dire compétitive, du monde communiste qui mettait en avant ses réalisations sociales, il y avait une pression politique sur les pays régis par une économie de marché à assurer une certaine performance sociale. Donc, c'est d'ailleurs la façon dont Roosevelt lui-même, dans son discours des quatre libertés, avait présenté la nécessité d'un État social en disant « c'est le moyen indispensable pour lutter contre toutes les tentations autoritaires et totalitaires. Car les gens dans la misère, sans emploi, faiblement rémunérés, sont, disait Roosevelt, la matière dont se nourrissent les dictatures. Donc, le maintien de standards sociaux élevés avait été conçu dans l'après-guerre comme une condition indispensable de résistance à la tentation autoritaire ou totalitaire. Avec la fin de la guerre froide et l'effondrement du communisme réel, qui n'a pas, c'est pas traduit, je le souligne toujours, par une victoire d'un camp sur l'autre, mais un début d'hybridation des deux systèmes dont le cœur a été la Chine bien avant la chute du mur, dès le début des années 80 avec les réformes d'Aung San Suu Kyi, on a vu une hybridation du système communiste et du système capitaliste, avec la possibilité pour les dirigeants de gagner des sommes inimaginables dans le régime communiste, et en revanche, avec une dégradation sociale et des libertés et un rétrécissement démocratique, ce que Hayek plaide comme démocratie limitée, c'est-à-dire le fait que la démocratie ne doit plus s'occuper de politique économique. Ces politiques économiques doivent être soustraites à la délibération démocratique. C'est ça qui se passe à la fin des années 90, et cela fait disparaître l'équilibre bipolaire qui avait justifié le succès relatif des normes internationales du travail auparavant. Et comme nous le verrons, ceux-là même qui, parmi les membres de la Conférence internationale du travail, admettaient volontiers, il y a 30 ans, lorsque cette interprétation mettait en difficulté la Pologne communiste, que le droit de grève était une composante de la liberté syndicale, les mêmes aujourd'hui refusent avec la dernière énergie une telle interprétation et n'hésitent pas à bloquer pour cette raison l'entier système de contrôle des normes. En revanche, ce système fondé sur le volontariat dans la ratification a au moins eu un avantage, essayons d'être un peu optimistes. Il a permis, jusqu'à la fin du XXe siècle, à la conférence, de faire preuve d'un grand dynamisme dans l'adoption de nouvelles normes, puisque cette adoption n'a en elle-même aucune incidence sur le droit applicable dans les États membres. Donc l'ensemble des conventions ainsi adoptées constitue aujourd'hui un véritable code international du travail qui couvre à peu près tous les aspects des relations de travail et s'étendant à la sécurité sociale avec de remarquables développements dans des secteurs spécialisés comme le travail maritime. Là encore, vous pourrez vous en faire une idée en consultant la liste de ces instruments sur le site de l'OIT. Toutefois, depuis la conversion des régimes communistes à l'économie de marché, l'activité normative de la conférence est elle-même progressivement tarie, puis quasiment complètement interrompue. Aucune nouvelle convention de portée générale n'avait été adoptée entre 2011 et 2019, jusqu'au centenaire de l'organisation. Bon, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour évoquer le second choix décisif qui a été fait à la création de l'OIT, qui a concerné le système de supervision des normes. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.